à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Red Alert, l'hebdo actu jeu vidéo de l'équipe de Sphère d'édition. Et l'équipe de Sphère d'édition, c'est en partie Nico Lacourcier. Nico, comment ça va?
Bonjour à tous, bonjour Médiel Canafi, ça va bien et toi?
Ça va bien, il pleut aujourd'hui.
Il pleut, il commence à se peler.
On pense à tous ceux qui sont sous la tempête.
C'est vrai.
Ça vente fort.
Accrochez-vous.
Et ça fait des bouclettes aux cheveux quand il pleut, et ça, c'est pas évident. Retour à un format plus classique pour l'émission du jour, dans laquelle nous parlerons de deux excellents jeux, Alan Wake 2 et Jusant. Preuve une fois encore de la qualité de cette année 2023, qui, aux côtés de 1998 et 2017, est en passe de monter sur le podium des plus grandes années du jeu vidéo. Vous retrouverez bien entendu l'interview de Top 3, mais avant c'est la rubrique retour sur l'émission de la semaine dernière, dans laquelle nous commentions le match au sommet entre Sonic et Mario. Bon, tout le monde ne l'a pas atteint, le sommet, justement. Peut-être Jusant, oui, il y arrivera.
Oh, c'est beau.
Au Japon, sur Switch, Mario Wonder s'est vendu à 638 000 exemplaires lors de la semaine de lancement. Alors que de son côté, Sonic Superstars s'est écoulé à uniquement 4 000 exemplaires. Alors, ok, un petit peu de réalité quand même. Sonic est sorti en multiplateforme, donc une version Xbox, une version Sony. Sonic est plus populaire aux États-Unis et en Europe. Mais bon, est-ce qu'on n'est quand même pas face à une branlée ici où il y a 634 000 exemplaires de différence?
Bah, match, il n'y a pas eu, j'ai envie de dire. Et c'est, enfin, sans vouloir mettre la tête sous l'eau de Sonic, c'est que je pense qu'on l'aurait tous pu l'anticiper, quelle que soit la qualité des jeux au final. Hein.
Je trouve que c'est extrêmement violent. Frontiers, à ça.
Qui me surveille. Il me voit.
Ouais, j'ai senti une pression atmosphérique. Non, mais Frontiers s'est vendu à 26 000 exemplaires sur Switch, lui aussi, jeu qui était multiplateforme comme Sonic Superstars. On est sur un delta là qui est de 22 000 exemplaires là-dessus. Il y a quand même quelque chose, peut-être.
Oui, et après, Mario en pleine bourre. Ça faisait, on l'a dit, 11 ans sans jeu de plateforme 2D. Il y a eu le film qui est sorti, le parc d'attractions qui a ouvert. Enfin, là, on est peut-être au pic de la franchise Mario global, quoi.
Autre retour sur Nico, voilà, tu nous as longuement parlé de la situation de Microsoft. Ça bouge dans les lignes et dans les postes de tes hautes sphères de Microsoft.
Ouais, on l'avait dit, donc Bobby Kotick allait certainement faire place nette à partir de janvier et Pete Hines de Bethesda, lui, a mis les voiles récemment et donc on se doutait qu'il allait avoir un peu de réorganisation en interne et que notamment Xbox allait placer un peu des hommes clés à des endroits stratégiques. Et réorganisation, il y a eu, alors Phil Spencer qui s'élève encore plus dans le ciel.
Comment on fait pour aller plus haut?
Président de Microsoft Gaming cette fois, donc plus Xbox, Microsoft Gaming au global, pour vous voir ce que ça veut dire.
Oui, j'avoue, je ne sais pas trop.
Il y a donc la fameuse Sarah Bond, donc qu'on anticipe être éventuellement une successeuse pour Phil Spencer. Et qui devient président d'Xbox, donc
voilà,
elle est à la tête du domaine Xbox, donc
on est quand même... pas Xbox Gaming. Non, mais c'est subtil quand même.
C'est vrai. Et donc le fameux Matt Booty, voilà, dont on se demandait si parce qu'il faisait bien son boulot ou pas là-dessus pour gérer l'ensemble des studios Xbox. Cette fois, il voit son poste étendu donc pour gérer l'ensemble des studios, y compris Bethesda.
Voilà.
Donc on avait entendu que l'échec de Redfall aussi, Microsoft n'avait pas voulu trop intervenir dans le développement pour un peu faire l'inverse de ce qu'on leur reprochait il y a des années, de venir un peu trop briser les équipes. Là, ils laissaient vraiment faire.
Ouais, c'était même laxiste, on avait l'impression.
Et pour le coup, ils se sont dit peut-être qu'il faut qu'on mette un petit peu plus les mains dans le cambouis. Donc voilà.
C'est quoi, il a 23 studios à gérer, lui, quand même, il y a du taf en organisation, en ligne éditoriale. Enfin, c'est pas évident, là, pour le coup.
Bah, après, on sait que ces mecs-là, ils délèguent, ils ont plein de gens avec eux. Mais après, c'est mieux aussi, peut-être, pour les questions d'organisation. On le disait, l'alternance des licences, des genres de jeux, d'avoir toujours un jeu fort à proposer tous les trimestres, c'est bien d'avoir quelqu'un qui supervise aussi l'ensemble, quoi.
Carrément, voilà, pour ces deux retours sûrs. Nico, est-ce que t'es prêt? T'es chaud pour parler de Alan Wake? On a un petit décor rapide. Halloween.
Bonne ambiance.
La semaine dernière, on n'était pas trop dans Halloween, on était dans Sonic Mario, donc on a mis un petit peu des toiles d'araignée cette semaine pour ceux qui nous regardent en vidéo sur YouTube et Spotify. On est aussi en vidéo sur Spotify. Alan Wake 2. On y va, donc le jeu, avant tout, il faut en parler, ne sort pas en boîte, c'est un scandale, il est exclusif à l'Epic Game Store de façon temporaire, et il ne sort pas en magasin, si vous allez en Fnac, si vous allez en Micromania, à Auchan, à Carrefour, où vous voulez, vous ne le retrouverez pas en boîte dans vos rayons. Et donc, pour comprendre un petit peu cette décision, voilà un petit peu de contexte. En 2010, c'est Microsoft qui a financé le premier Alan Wake. Et en tant qu'éditeur, ils étaient donc propriétaires des droits de la licence, contrairement à Remedy, le studio de développement. Le souci avec Alan Wake, c'est que Microsoft, ils étaient pas trop chauds pour un nouvel épisode. Du coup, la licence, elle était au point mort. Mais en 2019, le studio finlandais parvient à racheter les droits d'exploitation d'Alan Wake à Microsoft. C'était leur licence, mais... Du coup, il a fallu attendre cette année-là, 2019, pour qu'ils récupèrent les droits. Puis, quelques mois plus tard, le studio est approché par Epic pour les aider à financer leur nouveau jeu tout en leur donnant une liberté créative totale et en leur laissant les droits d'exploitation et de propriété intellectuelle de Alan Wake. Cet accord, il est pour deux jeux, le remaster de Alan Wake 1 et sa suite. Ce deal, il comprend le financement complet des jeux, le marketing et un pourcentage de royalties pour le studio qui s'élève à 50%. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un jeu Alan Wake 2 et le 1 remaster est vendu, il y a 50% qui revient au studio. C'est un pourcentage qui est énorme. Alors comme on peut le voir, le label Epic Game Publishing, ils sont cool. Et il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, ils ont les moyens d'être cool. C'est pas tout le monde qui peut se permettre de donner ce genre de contexte. Deuxièmement, c'est un travail d'image qu'Epic est en train de réaliser ici avec sa branche édition. Et à ce titre, ils ont signé le prochain jeu du studio Playdead et le prochain Fumito Ueda. Si c'est pas de l'image ça, ils sont pas là pour faire de l'argent uniquement. Bon, ils rentabilisent, ils souhaitent, mais ils sont là pour faire de l'image, pour créer des jeux.
Oui, et ils le regrettent peut-être un peu aujourd'hui.
On verra, on va voir. Epic, ils ont de l'argent. Fortnite, c'est eux. Le moteur Unreal, c'est eux. Alors pour rappel, au-delà d'un certain chiffre d'affaires concernant le moteur Epic, Epic gagne de l'argent sur chaque copie vendue des jeux développés sur leur moteur. Par exemple, sur le Unreal Engine 5 qui est sorti récemment, au-delà de 1 million de chiffre d'affaires, ils gagnent de l'argent sur chaque copie vendue. Avant ça, c'est gratuit. C'est une façon de faire qu'ils ont, mais bon. Chaque fois qu'il y a un jeu qui fait plus de 1 million de CA, là, ils récupèrent. Donc, ils visent clairement les gros bangers, les AAA qui tâchent. Tu voulais me dire
non, 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 c'est je voulais dire jusant et sur Unreal Engine 5, mais c'était une anecdote sans autre intérêt.
Donc ils vont
donc donner... voilà, dès qu'il dépassera 1 million de CA,
merci Epic.
Donnera de la thune à Epic.
Alors l'autre gagne-pain d'Epic, c'est l'Epic Game Store. C'est un shop en ligne de jeux Epic, évidemment, mais pas que. Vous pouvez trouver toutes sortes de jeux de toutes sortes d'éditeurs sur l'Epic Game Store. En fait, c'est une alternative à Steam. Et quand on dit tout ça, il devient logique d'entendre que Alan Wake 2 est une exclusivité PC sur l'Epic Game Store. Donc, pas sur Steam. Normal, ils ont quand même financé le jeu. Et il devient aussi logique que le jeu ne sorte pas en format physique. L'Epic Game Store, c'est un magasin en ligne appartenant à Epic. Pourquoi fabriquerait-il des boîtes pour donner plus de 50% du prix des jeux à des distributeurs, à des magasins physiques type Micromania, Fnac, tout ça? On peut peut-être en parler deux secondes. Tout ce qui est relègue de la distribution, c'est la partie la plus importante du prix de vente. C'est-à-dire que la distribution, le magasin, tout, là, ça dépasse les 50%. C'est vraiment énorme. On le sait très bien, nous, avec les livres.
Effectivement. On pouvait tout sortir en démat.
Non, mais exemple tout bête, quand vous achetez un livre Third sur le site de Third, l'entièreté du prix du livre revient à Third. Alors que quand vous lui achetez un livre en librairie, en gros, il y a plus de 60% du prix qui va pour le libraire, le distributeur, etc., etc. Alors on peut râler, on peut être saoulé qu'Alan Wake 2 ne sorte pas en boîte, mais ça n'a pas trop de sens, je trouve, de le boycotter. Si vous boycottez le jeu, vous pénalisez le studio, et vous pénalisez surtout vous. Vous n'allez pas jouer à un super bon jeu pour une raison qui n'a pas trop de sens, à mon sens. Alors ici, on aime les analogies culinaires. Le ciné, c'est ça fait un moment. Hein,
t'as switché sur la cuisine.
Ouais, je suis parti sur la cuisine et après même sur les voitures. Tu vois. Alors, on va parler de l'analogie culinaire. Pester contre l'absence de boîte pour Alan Wake 2, c'est comme râler sur un resto vegan qui ne servirait pas d'entrecôte. Et si vous voulez une analogie automobile, bouder contre l'absence de boîte pour Alan Wake 2, c'est comme gueuler contre Tesla de ne pas proposer de voiture avec un moteur thermique. L'Epic Game Store, c'est un magasin en ligne. Ce n'est pas dans son ADN d'entreprise de proposer une distribution classique. Historiquement, il développe du software et du middleware, et donc du démat. Faut l'accepter. Comme un resto vegan ne sert pas de viande, comme Tesla ne fait que des voitures électriques. Même si historiquement, avant, les restos servaient souvent de la viande, et les voitures tournaient toutes à l'essence. Mais les choses ont changé, il faut accepter un petit peu le contexte.
Oui, puis c'est souvent des cas de figure qui ressortent et qui prennent un peu pour tout le monde, parce que tu vois, sans vouloir faire le petit malin, c'est jusant, on sort pas en boîte non plus. J'ai vu personne venir râler là-dessus, quoi.
Et une grande partie des jeux indés, alors peut-être qu'ils considèrent que c'est un jeu triple A d'envergure et qui se doit d'être dans les rayonnages à Noël. Peut-être que
après,
c'est ça.
Après, honnêtement, je prendrais presque le pari que dans un an ou deux ans, t'auras une version, alors limited run,
c'est
ou autre chose,
c'est
mais
tout à fait
qui
possible.
Sortira dès qu'ils auront encaissé le plus de pognon possible pour le lancement.
Exactement, t'as tout à fait raison. C'est là où je voulais en venir, c'est qu'il est possible qu'il y ait une version physique qui arrive à terme une fois qu'ils auront réellement rentabilisé Alan Wake 2. Ceux qui râlent peuvent dire « Oui, mais regardez, Alan Wake 1 Remaster, il a été en boîte. » Oui, mais Epic avait vraiment une conquête de public à faire avec Alan Wake 1 Remaster. C'est-à-dire que depuis 2010, Alan Wake, personne n'a entendu parler. Donc, il fallait le ressortir de façon le plus large possible. Sur multiplateforme, Sony, on n'avait pas eu... Pourquoi je dis « on » Pour cocher Sony.
Les mascotons.
On n'avait pas eu l'occasion de jouer à Alan Wake. Et certains peut-être vont dire, ouais, mais moi j'ai déjà vu des boîtes Fortnite sur des événements Fortnite avec des boîtes dédiées. Mais sachez que si vous ouvrez ces boîtes dedans, il n'y a rien du tout.
Faire une boîte vide, c'est encore plus nul, quoi.
Donc est-ce que vous voulez une boîte d'Alan Wake 2 pour avoir un code? Peut-être qu'il faut se poser les bonnes questions.
Ouais. Parce que... Après, évidemment, on comprend tous les deux, je pense, à les raisons qui font la préservation des jeux vidéo, le côté d'avoir aussi la boîte, c'est le jeu t'appartient, c'est pas si le store ferme, comment ça se passe, on comprend. Aussi, si t'as une connexion Internet qui est pas performante, c'est pénible de pas avoir un jeu en boîte, c'est sûr.
Non, mais t'as raison.
Mais à mon sens, il y a quand même une gestion de priorité. C'est, tu peux dire, je favorise le jeu physique par rapport aux maths, mais quand t'as pas le choix, enfin, le but, ça reste quand même de jouer à des bons jeux vidéo, tu vois.
Ouais, bien sûr.
C'est comme tu dis, je sais pas, le nouveau Scorsese qui sort sur Netflix, je le regarde pas. Alors, enfin, peut-être que le mec a signé sur Netflix parce qu'on pouvait pas le faire sortir au ciné autrement. Mmh. Mais le but, c'est quand même que le film existe. Tu vois, ça reste quand même la première priorité, quoi.
Il y a eu ce genre de débat, au cinéma avec des films qui ne sortent pas en salle et des gens qui se sentent lésés de pas voir dans les meilleures conditions un
film. Je comprends et moi aussi ça peut me saouler, mais voilà, faut aussi voir quelle est la priorité du truc, quoi. Le but c'est quand même à la base le jeu et le fait qu'il existe, quoi.
Exactement, et encore une fois t'as raison dans l'absolu. Là moi j'essaie juste de dire, il faut regarder de façon rationnelle. Les gens qui ont mis de l'argent dans ce jeu ont tout intérêt à le sortir sur leur plateforme. Donc je dis pas que c'est bien ou mal, c'est que c'est logique en fait. C'est que mettez-vous à leur place.
Comme quand Netflix fout 200 millions pour un film, évidemment ils vont me dire
pourquoi il est pas sur elle.
Venez, on va le vendre ailleurs.
Allez, on va parler de Alan Wake, le jeu cette fois, et commençons par le commencement, on va parler du prologue. On est ici face à un jeu qui veut nous dérouter, et ça, c'est le prologue qui nous l'annonce. Ici, pas de mise en situation, on ne sait pas qui on est, qui on joue, et pourquoi on est là. On incarne un personnage nu, un homme d'âge avancé, et ça, c'est quand même pas commun. Du coup, à ce niveau-là, la seule chose qu'on sait, c'est que les créateurs veulent brouiller les pistes et se jouer de nos attentes. On pensait jouer un shooter en incarnant Alan Wake, bah non, on est un vieux tout nu dans un jeu d'horreur bien dégueu. Et ce contre-pied, il va se poursuivre jusqu'à la dernière seconde du jeu. Qu'est-ce qui est réel? Qu'est-ce qui ne l'est pas? C'est toute la question. Nico, tu as fait ce prologue, qu'est-ce que t'en as pensé?
Ben, comme tu l'as dit, surprenant, et moi j'aime bien quand le jeu, dès le début, il vient un peu te montrer quelque chose de différent de de quoi tu t'attends. Et
tu me l'as dit juste avant l'enregistrement, je me permets, c'est t'aurais aimé qu'on ne sache pas qu'on joue Saga Anderson, donc la flic. Oui. Et est-ce que quelque part ce prologue, c'est pas un acte manqué, mais de dire, le but c'est vraiment brouiller les pistes, et ça sera l'ensemble de ma chronique qui sera articulée autour de ça. On n'a pas pu vous cacher Saga Anderson, parce que c'est la moitié du jeu.
Oui, puis ça aurait peut-être, on se rappelle l'épisode Metal Gear Solid 2, surtout quand t'as un jeu qui s'appelle Alan Wake, tu vois, t'as envie de jouer Alan Wake, donc ça aurait peut-être pu énerver certains joueurs. Mais effectivement, c'est peut-être que ce prologue-là, une béquille, mais en tout cas, il met direct dans l'ambiance et il est ultra réussi, quoi.
Ouais. Alors, pour désigner Alan Wake 2, je pourrais utiliser l'expression éculé, c'est le jeu de la maturité. Et ça aurait pu bien coller, je pense, parce que Alan Wake 2, c'est le jeu de la maturité pour Remedy, car il use, avec maestria, je trouve, de tous les savoirs accumulés du studio depuis leur premier jeu. Mais je vais pas dire qu'Alan Wake 2, c'est le jeu de la maturité. Pour moi, c'est plutôt le jeu de la réaction. Parce qu'Alan Wake 2, c'est une réponse parfaite aux défauts du premier épisode, et même aux défauts des jeux Remedy dans leur ensemble. Par exemple, les séquences vidéo de Quantum Break, elles étaient mal intégrées, le studio l'a entendu. C'est maintenant beaucoup mieux géré dans Alan Wake 2. Mais bon, le titre, il reprend aussi le positif des jeux passés, par exemple. Tout ce qui est expérimentation artistique, vraiment trop classe à deux contrôles, sont ici de retour, mais ça ira même beaucoup plus loin, jusqu'au titre des chapitres en grande capitale blanche. Là, je sais pas si t'as vu.
Ouais.
T'en as eu des expérimentations, des délires comme ça à la contrôle. T'as adoré contrôle. Tu sens ça un petit peu dans la mec.
Ouais, c'est vrai que contrôle, au-delà du côté pur shooter qui était quand même réussi, c'était vraiment tout l'enrobage, la direction artistique, les effets visuels qui venaient vraiment marquer. Et là, comme tu dis, Alan Wake, c'est vraiment dans la même ordre d'idée et encore plus travaillé. Et plus d'aboutissement, quoi.
Et l'expérimentation vidéo, dans Alan Wake 1 déjà, il y avait de la vidéo. Ils ont poussé le délire bien plus. Quantum Break, juste pour préciser, c'était un jeu vidéo et une série qui se jouaient en alternance. Il y avait un chapitre de jeu vidéo et un épisode de série.
Ouais. Et les deux étaient nuls. Non, les deux étaient pas ouf.
C'était pas perfectible.
Ouais. Perfectible, oui. C'est certainement leur moins bon jeu, peut-être.
Je pense.
Remedy.
Et c'est celui qui n'est pas dans le lore. On va y revenir. Alors, le premier Alan Wake était très répétitif. C'est sûrement le plus gros écueil du titre. Le studio l'a aussi entendu et avec Alan Wake 2, ce reproche est totalement effacé. Sur plus de 20 heures de jeu, c'est vrai qu'on shoot encore, mais l'aspect action est amené au second plan. Néanmoins, si ces phases de shoot deviennent secondaires, c'est pas uniquement pour apporter une réponse à une critique du premier jeu. Non, le shoot devient secondaire parce que ça a du sens. L'accent a été mis sur l'exploration et l'enquête, et de ce fait, on passe moins de temps à canarder tout ce qui bouge. Et cette recherche de sens, de signifiant, et ça sur tous les aspects du jeu, ben, c'est la chose qui m'a le plus impressionné dans Alan Wake 2. Que ce soit les jumpscares, avec ces images de visages qui hurlent à l'écran, ou même cette boîte à chaussures, hein, qui a la même fonction qu'un coffre de Resident Evil, tout sera justifié. Faut aller jusqu'à la fin, mais vous verrez que tout sera justifié. Tout est très bien écrit et tout trouvera un écho. Même les personnages du premier jeu, tout a un lien. Du plus petit détail aux grandes thématiques, tout est réfléchi. Et les grandes thématiques, ben, on va y venir. Dans Alan Wake 2, une grande partie de la réflexion autour du jeu est faite à travers de deux notions. La notion d'immersion et la notion de réalité. Donc on va commencer par la première, hein, la notion d'immersion. Alors je l'ai dit, moi ce qui m'a impressionné, c'est le sens donné à toute chose. Par exemple, dans Alan Wake 2, le menu pause et l'inventaire sont complètement intégrés à l'univers du jeu, alors qu'habituellement, bah, ce sont des normes dans le jeu vidéo qui nous sortent de l'expérience. En fait, le menu pause prend forme, il est matérialisé. Quand on joue Saga Anderson, donc la flic du FBI, hein, qui est l'un des deux personnages jouables, le menu pause devient une grande chambre d'hôtel, qui représente son antre mental. On va pouvoir se balader dans cette chambre, ou même tout faire avec des raccourcis, c'est plutôt bien fait. Et du coup, on va pouvoir faire tout ce qu'on fait habituellement dans un inventaire classique. Augmenter la puissance de ses armes, regarder des documents, vidéos récoltées, tout ça. Mais surtout, on va avoir accès à un tableau d'enquête. Alors vous savez, hein, ces murs remplis de photos et de documents reliés par un fil rouge, ben, c'est exactement ça. Et ça va être à nous de le compléter. Et dans ce menu pause imaginaire, on va pouvoir aussi se poser à un bureau et faire du profiling, du profilage en français. Saga Anderson, ben, c'est un profiler et elle peut se projeter dans l'esprit des tueurs pour mieux comprendre et anticiper leur action. Et on va devoir aussi se prêter au jeu. Alors c'est pas une partie très dynamique, il n'y a pas de gameplay. Mais il faudra penser à le faire, c'est important, car ça va débloquer des situations dans le jeu, donc finalement, il y a un petit peu d'interactivité. Quand on joue à Alan Wake, c'est un peu différent. Mais encore une fois, il y a une recherche de logique et de sens. Le studio, il n'a pas simplement dupliqué l'entremental de Saga Anderson. Ici, on est Alan Wake, donc on est un écrivain. Et le tableau d'enquête est remplacé par un établi à notre histoire. On va pouvoir modifier des scènes du jeu en changeant à la volée les idées du livre qu'on est en train d'écrire. Et ces changements seront visibles en direct dans le jeu. C'est-à-dire que vraiment, vous allez changer en direct dans le jeu en fonction d'une idée que vous allez avoir. Donc tout est dans le contexte, donc vous êtes un écrivain. Alan Wake va avoir une idée pour changer le roman qu'il est en train d'écrire. Tu vas dans le menu pause, dans ton établi, comme j'appelle ça l'établi de son histoire, tu vas changer et en direct, vous allez voir le monde changer, se transformer. Je trouvais ça ouf.
Mais c'est crucial, hein. Enfin, je reviens juste sur le côté profiling et l'antre de Saga. En fait, c'est que c'est vraiment intégré à l'expérience dans le sens où, au moment, au début du jeu, j'ai joué 4-5 heures, donc j'ai pas encore tout vu, mais je cherchais un objet dans une zone, oui. Et cet objet n'était pas là, et il a fallu que je passe par le menu pour voir tous mes documents et tout, et réagencer les preuves, pour que ça puisse faire apparaître l'objet. Alors on peut se dire, ah, c'est un peu une faille de game design, parce que machin, c'est artificiel. Et en fait, non, c'est le cœur de l'expérience du jeu, et c'est, il faut bien le comprendre quand on joue, en fait. Il faut pas du tout délaisser cette partie-là. C'est pas un truc accessoire auquel on vient une fois de temps en temps.
On peut pas même.
Il faut vraiment le faire régulièrement.
L'exemple, un autre exemple peut-être marquant aussi, c'est que par exemple, vous allez être devant quelqu'un, vous allez l'interroger en tant que flic, mais vous êtes aussi profiler, donc vous allez dans votre entremental, avec ce menu pause bien intégré au jeu, et là, vous allez faire du profilage sur ce personnage. Et donc, vous allez pouvoir débloquer des questions de votre interrogatoire. Si vous n'allez pas faire ça, ben, l'interrogatoire s'arrête et vous ne pouvez pas continuer le jeu. Donc, comme tu le disais, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel. Et perso, toute cette partie, moi, j'ai trouvé ça absolument génial. Dans Alan Wake 2, on est dans une sorte de simulation d'enquête et d'écrivain. Et avec les procédés utilisés, ben, les normes et prérequis du jeu vidéo, comme l'inventaire, qui sont le plus souvent, ben, je trouve, anti-immersifs, ben, ici, ne viennent pas du tout interférer avec l'immersion. Certains vont trouver ça pénible, c'est possible, pas assez interactif. Je peux le comprendre, mais moi, perso, ben, j'ai vu un appui à l'immersion de dingue, j'ai trouvé ça très amusant et totalement dans le délire du jeu. Mais surtout, j'ai trouvé la démarche logique et pas accessoire. Nico, t'as commencé à nous le dire, est-ce que tu nous l'as expliqué, mais est-ce que t'as apprécié ce délire, en fait ?
Oui, oui, clairement, c'est là aussi le côté roleplay aussi qui peut jouer, c'est que t'es à fond dans le personnage et tu vois comment ils réfléchissent, comment ils agissent. Alors c'est vrai que le profiling, j'aurais aimé qu'il soit un peu plus interactif, parce que là pour le coup, t'as juste à cliquer, la réflexion se fait tout seul derrière. Mais le côté enquête, les photos sur les murs, le lien que tu crées entre les événements, ça aide déjà à toi à bien capter ce qui se passe. Et surtout, comme on dit, ça a un rôle dans le jeu. Donc moi, je suis vraiment super fan, quoi.
Le côté profiling, je pense qu'il est pas interactif pour vraiment poser l'ambiance. Tu vois qu'il y ait pas d'interaction vive, on va dire, parce que au fur et à mesure du jeu, le profiling va venir plus sombre. plus, des histoires ouais. un peu plus sordides. Et donc, du coup, peut-être pour pas, bah, tu vois, sortir notre attention et être un petit peu focalisé. Ces profilings sont très courts, hein. C'est ouais, quelques ouais. secondes. Hein.
Et j'ose imaginer que c'est lié aussi à la caractérisation du personnage et ce qu'on veut nous raconter.
Et là, on parle dessus, beaucoup de Sag Anderson et son profiling. Voilà, j'insiste beaucoup. La partie Alan Wake, c'est pas un copycat. Lui, il est écrivain, donc c'est pas la même pièce. C'est pas le même gameplay. Entre guillemets. C'est vraiment assez différent. Donc, on a vu la première notion. La seconde notion, c'est la notion de réalité. Et absolument tout dans Alan Wake 2 va dans le sens du prologue. Rappelez-vous, ici, tout est fait pour brouiller les pistes. Et absolument tout dans le jeu tourne autour des notions de réel et de fictif. Par exemple, dans la vraie vie, le premier Alan Wake est sorti en 2010. Dans la fiction, l'histoire de Alan Wake 2 se déroule en 2013. Oui, 13 ans se sont écoulés en vrai et dans le jeu.
2023, du coup.
J'ai dit quoi ?
2013.
2013, pardon. 23 ans de, entre le jeu et la réalité. Alors c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Voilà comment il y a eu ce delta entre le jeu
et... Ils appuient dessus régulièrement.
Oui, les 23 ans d'attente, tout ça. Non, les 13 ans d'attente. Le mec ne sait pas compter, quoi. Alors que pourtant, c'est pas très compliqué. Alors dans les deux jeux Alan Wake, le rapport entre la réalité et la fiction, il est frontal. C'est le propos des jeux, c'est la problématique centrale. Ce qui est intéressant, c'est que la réalité et la fiction sont deux notions qui sont opposées. Et cette dualité, ben on va la rencontrer partout dans le jeu. Dans le gameplay, il y a l'ombre et la lumière. Dans les décors, il y a la ville et la campagne. Dans les héros, il y a un homme et une femme. Les deux personnages de l'intrigue Alan Wake vont chacun porter des valeurs, des caractéristiques, des choses qu'on pourra penser en confrontation, mais qui seront au final en osmose. Encore une fois, le but ici est de brouiller les pistes, de nous présenter les choses comme néfastes, alors qu'en fait, elles sont positives. Un autre truc, et moi c'est le premier truc qui m'a sauté aux yeux, c'est la qualité graphique. Le jeu, il est trop beau. Enfin, je minimise. Il est trop beau, certes. En plus, il est développé sur un moteur maison du studio, le Northlight, donc GG à eux. Mais si le jeu il est si beau, c'est parce que la qualité graphique est nécessaire pour le récit. Encore une fois, il y a cette recherche de sens pour absolument tout, même dans ce qui sort de la diégèse du jeu. Et c'est tout le propos, hein. Qu'est-ce qui fait partie du cadre du jeu? Qu'est-ce qui est hors du cadre du jeu? Si le jeu est si beau, c'est pour nous perdre, pour brouiller les pistes encore une fois, et jouer sur les différentes strates de réalité. À plusieurs reprises, je me suis posé la question, ce que je vois là. C'est une cinématique ou c'est une vidéo? C'est un personnage en image de synthèse ou est-ce que c'est un acteur? Est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est fictif? Nico, est-ce que t'as hésité toi des fois entre...
Oui, bah de toute façon le jeu fait tout pour te faire hésiter et c'est vrai que t'as même des fois où t'as des superpositions d'état ouais. sans trop en dire aussi là-dessus où effectivement tu sais plus trop où t'en es. Quoi.
Est-ce que le jeu est beau? Vite fait.
Le jeu est très beau.
Le jeu est très beau. Pour accentuer notre perdition, hein, le jeu va aussi déployer un level design assez alambiqué. Alors, c'est pas cocoon, hein, mais dans les séquences avec Alan Wake, le mélange des plans de réalité que le héros va subir se traduira pour nous par des niveaux à la topographie. Illogique, impossible, irréel. Du coup, oui, on va être paumé. Mais c'est volontaire, il faudra même parfois accepter de se perdre pour mieux trouver la sortie. T'es arrivé à ce niveau-là où tu commences à te paumer, tu te dis « Attends, je fais quoi là ?»
Pas encore trop, mais tu sens que oui, le jeu cherche à te désorienter et il ne faut pas réfléchir en termes de logique habituelle. Quoi.
La partie musique et son va aussi prendre part à cette dualité fiction et réalité, parce que le jeu possède pas réellement de musique. Alors attention, au cours du jeu, il y a presque que du sound design qui est... ultra flippant. Hein. Néanmoins, quand la musique intervient, c'est qu'il y a un rapport au réel. Quand il y a de la musique dans Alan Wake 2, c'est parce que c'est joué en concert, en live. Alors, je parle pas d'enregistrement, je parle de la diégèse du jeu. Quand la musique est jouée, elle est jouée dans le jeu par des personnages. Il y a un vrai rapport au réel quand on parle de la musique dans le titre. Et qu'est-ce qui est plus réel qu'un concert pour la musique ? Bah rien, je trouve. On peut pas toucher ni voir la musique, sauf en concert, car on peut en fait la sentir. Aussi, vous allez pouvoir entendre d'autres chansons, mais cette fois entre les chapitres du jeu. Donc c'est extra diégétique. Ces morceaux, ils ont été composés dans le cadre du jeu, dans une compilation nommée Chapter of Song. Ce sont des morceaux joués par un label qui est réel, très connu en Finlande, hein, qui s'appelle Shred Music, mais qui sont présents dans le jeu entre les chapitres de fiction. Ces musiques sont littéralement des transitions entre le réel et l'irréel, entre la fiction et la réalité. Mais le flou artistique entre les plans de réalité, il s'arrête pas là. On sait que les jeux Remedy sont liés par un même univers. Avec le temps et les différents titres, hein, la porosité entre les scénarios, entre les jeux, bah, c'est un peu amoindri. Il y a eu un DLC pour Control hein, qui a officialisé la chose. Et vous verrez dans Alan Wake 2, il n'y a plus aucun doute. Il y a le fait que tout se déroule dans le même monde, c'est effectif. En revanche, on sait que Quantum Break n'est pas inclus dans ce lore global. Et pourtant, chez Remedy, ils peuvent pas s'empêcher de nous embrouiller. Alors c'est fait avec humour dans Alan Wake 2, c'est un clin d'œil, mais en fait, l'acteur principal de Quantum Break joue un rôle dans Alan Wake 2, celui du shérif. Alors je vous en dis pas plus, mais lui aussi il semble un petit peu perdu. Allez, pour la blague, sachez que le nom de ce shérif dans le jeu, c'est Tim Breaker. Time Breaker, donc le briseur de temps, en sachant que Quantum Break voulait dire rupture quantique. Je trouve que c'est rigolo.
Oui, de toute façon, enfin, je sais pas si tu en parlais, mais on sait que l'influence de Stephen King sur Remedy, elle est gigantesque. Quand on sait comment Stephen King a bossé aussi autour de son œuvre pour essayer de rendre ça cohérent, je pense que on est clairement sur une inspiration directe, quoi.
Allez, on va terminer en beauté avec le plus beau, le plus fort, le plus stylé. Je dis ça sans me moquer parce que je l'adore. C'est Sam Lake, qui est la figure de proue du studio Remedy, mais qui n'en est pas le fondateur. Sam Lake, c'est un peu le Kojima de Konami de l'époque. Il est crédité. Nico a fait une moue de Sam Lake, c'est très très réussi. Alors, Sam Lake, il est crédité 200 fois dans tous les jeux, il est la tête pensante de tous les titres, il est à l'écriture, au script, à la supervision vidéo, il est acteur, il est partout. Et quand je parlais de confondre réalité et fiction, là, clairement, on va passer la seconde, donc on va partir dans le méta complet. J'espère que vous êtes prêts. Je sais pas si vous allez comprendre, hein, je vous challenge un peu hein, pour que soyez... si jamais, vous me dites, je répète. En tout cas, toi, je sais pas si les gens ils vont gueuler chez eux en courant, j'ai rien compris. Parce que si Sam Lake est sur tous les fronts, c'est pas uniquement parce qu'il a, c'est une bête de travail ou qu'il a un ego surdimensionné, c'est aussi et surtout parce que ça a du sens dans les jeux qu'il crée. Comme je vous le dis depuis le début de cette chronique, la recherche de sens est le moteur d'Alan Wake 2. Parce que Sam Lake, c'est donc le créateur du jeu, mais c'est aussi le visage d'Alex Casey, le partenaire de l'un des héros du jeu de Saga Anderson. Sam Lake, c'est donc le modèle 3D pour ce perso du FBI, mais c'est aussi l'acteur qui joue son rôle. On le voit en vrai, dans des vidéos, c'est vraiment Sam Lake qui l'incarne en vrai. Sauf que, accrochez-vous, hein. Sauf que Sam Lake, Alex Casey, pardon, moi aussi maintenant, Alex Casey, c'est le personnage de fiction de roman écrit par Alan Wake. Alan Wake a écrit un roman dans lequel il y a un flic, ce flic, c'est Alex Casey. Exactement comme Sam Lake est l'auteur imaginé et écrit par Alan Wake. C'est un peu une inversion. Mais c'est pas terminé. Alex Casey, joué par Sam Lake, donc, il a deux représentations dans le jeu. Une version réelle, donc c'est un agent du FBI, partenaire de Saga Anderson, qui porte le même nom que le personnage de fiction imaginé par Alan Wake. Donc quand vous êtes dans la partie avec Saga Anderson, son partenaire, qui est Alex Casey, c'est un mec du FBI, bah lui il est dégoûté parce que bah Alan Wake, il a écrit un roman dans lequel bah, il a quelqu'un qui porte son...
Oui, c'est devenu un sujet de vanne, surtout lui dans le FBI, tout le monde le vanne là-dessus.
Exactement.
C'est comme si tu t'appelais Sherlock Holmes. Ou...
Et que t'étais flic.
Oui.
Mais il y a aussi le Alex Casey, flic badass, imaginé par Alan Wake, qu'on va croiser dans l'entre-noir, justement, quand on joue l'écrivain. Eh bien, cette version du perso, le Alex Casey héros-fiction, il est aussi joué par Sam Lake. Sauf qu'il a le look de Max Payne, un autre personnage de Remedy, aussi joué par Sam Lake. Donc c'est vraiment super marrant à observer, hein, et l'effet escompté, c'est nous perdre, briser les barrières entre réalité et fiction, bah ça marche à 2000%.
Oui, oui, puis c'était aussi le propos de Alan Wake 1, c'est qui de la création du créateur nourrit l'autre, finalement, quoi.
Et là, ils ont, encore une fois,
là,
passé...
Ils ont poussé là, tous les potards à 20 000, quoi.
Et vous l'avez remarqué, enfin, est-ce que vous l'avez remarqué, dans Alan Wake et Sam Lake, il y a qu'une lettre qui différencie les noms de famille. C'est pas un hasard, hein, parce que Sam Lake, en fait, c'est pas son vrai nom. Il s'appelle Sammy Yarvi. Sam Lake, c'est un alter ego. C'est une sorte de masque qu'il a choisi de porter pour Max Payne et qu'il conserve encore aujourd'hui quand il est en public. Sam Lake, c'est une façade. C'est une sorte de personnage qui porte des costumes sur mesure. Il est tout le temps très stylé, c'est vrai, il porte des costumes sur mesure. C'est le visage public et toujours souriant d'une entreprise. Alors qu'en réalité, Sammy Yarvi, c'est quelqu'un de bien moins extraverti. Et c'est pas moi qui le dis, c'est lui, j'invente rien. Donc c'est marrant ça, tu vois.
C'est intéressant, c'est vrai qu'on découvre un peu les couches là-dessus. Et normalement, Alan Wake, tout le délire, l'entre-noir et tout, ça se passe dans un lac aussi.
Ah, je pas. Non, j'ai pas osé là, j'ai pas osé pousser. Celui-ci, tu vas déjà très loin, donc calme-toi. Mais effectivement, le côté lac est fondamental. Il est même Alan Wake perdu au fond du lac. Ce n'est pas un lac, c'est un océan. Si vous avez fini Alan Wake 1. Et si on devait faire une comparaison, en fait, Alan Wake, c'est pas une version fictive de Sam Lake. C'est plus un personnage qui représenterait Remedy dans son ensemble. Que ce soit Alan Wake ou Remedy, les deux ont connu un grand succès, puis une chute, et ils doivent maintenant revenir et faire leurs preuves. Allez, je termine avec une dernière anecdote, et on en a parlé Nico. Sam Lake, il ne se double pas lui-même dans le jeu. La voix que vous entendez en anglais, bah, c'est pas lui. Et ça, parce qu'il est pas anglais en fait. Il est donc, il a pas un anglais parfait, c'est un natif finlandais. Il pouvait donc pas jouer un pur flic américain avec un pire accent. Ce qui est marrant, c'est que c'est aussi le cas de l'acteur qui joue Alan Wake. Et ça, parce que c'est un acteur finlandais. Mais il est pas que acteur en fait, c'est aussi un écrivain populaire. Comme Alan Wake.
C'est vrai, ah oui.
Ouais. La barrière entre réalité et fiction est totalement floue. Donc voilà, on est allé au bout là, tu vois, du truc, c'est vraiment n'importe quoi.
Mais c'est ça qui est beau, c'est qu'ils ont vraiment poussé le délire à fond, quoi.
Moi, j'adore.
Ah oui, une chose, c'est d'avancer dans ma partie, quoi.
En conclusion, donc Alan Wake 2, c'est le fruit de l'expérience et du savoir-faire d'un studio. Jusque-là, bah, rien d'étonnant dans ce que je raconte. Mais ce que j'apprécie énormément avec Remedy, bah, c'est qu'il fait partie des studios qui creusent un même sillon, qui poussent encore et toujours une même ligne éditoriale, comme Housemarque, comme Quantic.
Comme Dontnod aussi.
Comme Dontnod aussi. Et voir Alan Wake 2 être un jeu si qualitatif est pour moi une super bonne nouvelle, parce que je pense qu'on est ici pas du tout sur l'aboutissement d'une formule. On est ici simplement sur un jalon, et le prochain jeu sera sûrement encore plus abouti, et ça à tous les niveaux, et j'ai trop hâte. J'ai vraiment trop hâte. Est-ce que la suite, tu veux qu'on fasse un petit topo là-dessus? Donc à ce jour, il n'y a pas encore le New Game Plus, il va arriver dans une seconde vague une nouvelle mise à jour gratuite, ce qui va apporter un niveau de jeu plus complexe, mais aussi des pans de scénario, on n'en sait pas plus.
Ouais, ça c'est un peu mystérieux, et ça me saoulerait de devoir refaire le jeu pour avoir des infos de scénar en plus, c'est un peu bizarre.
Ça me saoulerait aussi, mais vu à quel point ils ont mis l'emphase sur, c'est toute ma chronique, sur le sens aux choses, ce New Game Plus, je pense qu'il va avoir du sens, donc c'est très intéressant.
Au contraire, serait étonnant.
Ça serait bizarre. Il y a aussi deux DLC pour Alan Wake 2 qui sont à venir, donc si vous avez la version Deluxe, ils sont compris, sinon il faudra les acheter à part. Les deux DLC, on connaît leur nom, on connaît le contexte, donc je vous en dis pas plus, ne vous renseignez pas. Il y a aussi une suite pour Control qui va arriver, donc ça c'est pour le côté Remedy. Il y a aussi un multijoueur pour Control qui va arriver. Surtout ce lore un petit peu Remedy verse, mais ils sont pas fermés à faire entrer d'autres licences dans leur univers, donc pourquoi pas. Et enfin, tout à l'heure je vous ai dit qu'ils ont réussi à récupérer la licence Alan Wake à Microsoft. Sachez qu'ils ont vendu cette fois la licence Max Payne à Rockstar et Take-Two. Néanmoins, Rockstar et Take-Two ont chargé Remedy pour un remake de Max Payne qui est en cours. Ça sera un seul jeu qui va remaker les deux jeux en un. Et en fait, moi je vois en Alan Wake 2, une colonne vertébrale toute faite pour ce Max Payne, où comme je vous disais, on canarde moins que dans Alan Wake 1, comme dans Max Payne 1 on faisait que canarder, c'était que ça, mais c'était très répétitif. Mais bon, en 2001 et 2003, on s'en fichait. Aujourd'hui, ils vont mixer les deux jeux, ils vont mettre plus d'emphase, je pense, sur l'ambiance noire, sur le scénario, et peut-être l'équilibre sera mieux trouvé que...
Ouais, c'est ce qu'ils ont l'air de la direction qu'ils ont l'air de prendre. Mais c'est vrai que Max Payne, je trouve, cristallise vraiment l'identité Remedy, dans le sens où c'est un jeu qui est reconnu pour être un pur shooter, et il a été encensé pour son gameplay manette en main, le côté frénétique, bullet time et tout, mais aussi c'est un jeu ambiance, scénario, et il avait grave plus pour ça. Et je trouvais jusqu'à maintenant que c'était peut-être le petit défaut des jeux Remedy, c'est qu'ils avaient ces deux fortes composants, mais qui avaient du mal à se mélanger.
Ouais.
T'avais toujours des jeux à forte ambiance, scénario, avec toujours des idées cool, et t'avais à part le côté très jeu vidéo aussi, tu vois, Quantum Break et même Control, c'était un peu la même chose.
Ouais.
Et là, Alan Wake 2, c'est vraiment, je trouve, la fois où ils ont réussi à réunir vraiment les deux pans qui vont s'entremêler de manière très naturelle. Et tu parlais de Quantic, tu parlais de tous ces studios qui ont une ligne directrice. Tu vois qu'ils tentent des choses et que des fois ils se loupent. Tu vois,
oui, quand exactement.
C'est loupé aussi avec Beyond Two Souls, puis hop, tu repars dans une autre direction. T'essaies d'affiner ta formule et il y a des fois où les étoiles s'alignent et tu prends toutes les bonnes décisions.
Oui.
Et Alan Wake 2, j'ai l'impression que c'est ça, quoi. C'est que c'est des bonnes décisions. C'est tous les bons éléments qu'ils ont pris. Ils ont corrigé tout ce qui allait pas. Et Dieu sait que j'avais moi des réserves sur Alan Wake 1, même si c'est un jeu auquel qui est très attachant parce que j'aime bien Remedy. Mais il y avait des choses qui allaient pas formellement. Et là, pour le coup, ça a l'air d'aller clairement dans la bonne direction. Enfin, j'ai rarement été autant excité par un jeu et l'envie de continuer, quoi.
Bah écoute, c'est un enthousiasme qui fait plaisir à entendre. À la rédac, sachez qu'on a arrêté de parler des top 3 de fin d'année. Ça y est, parce qu'on va faire un comment on dit quand tu prends les billets là dans un chapeau là.
Un tirage au sort.
Non, j'avais un autre mot.
Un truc main innocente.
Ouais, je sais pas quoi. On va faire un petit tirage au sort où on va élire le jeu de l'année de la rédac. Et donc chaque top 1, 2, 3 aura des points. Donc on a arrêté maintenant parce que ça peut bluffer, ça commence
essayer de faire des alliances et tout, parce qu'on a rarement eu, je pense, des tops aussi différents.
Ah ouais, là c'est...
Et du coup, un jeu, il suffit qu'il soit cité deux fois pour être peut-être le GOTY de l'année, donc...
Ouais, donc voilà. Mais bon, peut-être qu'il sera dans plusieurs tops.
On a compris le message.
On a compris le message. Bah Nico, t'es très enthousiaste aussi, donc voilà pour Alan Wake 2. Vous avez peut-être eu déjà le temps de vous y essayer. N'hésitez pas à nous faire un retour, de nous dire ce que vous pensez de Alan Wake 2, des jeux Remedy, de Sam Lake, ce héros. Le monde va mieux avec plus de Sam Lake. Moi, franchement, c'est incroyable. Ce mec, je l'adore. Je sais pourquoi, je sais comprendre.
Bah, parce qu'il est sympathique.
Mais tu vois, ça m'a un peu touché quand j'ai appris que c'était un alter ego.
Ouais.
Que je suis.
C'est un connard, en vrai.
Non, mais potentiellement, mais moi, je suis fan de son image, du masque qu'il met.
Oui.
Et ce type-là, en fait, est très très timide. En fait, il est clairement différent. Tu vois, ce côté, ça c'est une interview que j'ai lue aussi, il porte vraiment des costumes sur mesure. Il l'a dit, il a donné la marque, c'est un tailleur finlandais. Et ce mec, s'il faut, il a un survêt. Il a pas du tout.
Ouais, mais c'est son costume de scène, quoi. Vraiment.
Exactement.
Ouais. Sa tête avec ses petites mimiques, c'est son masque.
C'est exactement ça. Peut-être qu'il délire pas à faire son sosie de Clint Eastwood et tout. Mais bon, moi je l'aime beaucoup, ce mec. Je le trouve hyper attachant et c'est vrai, je ne le cache pas. Ça donne un biais, moi, ces jeux. Je suis pas fan de tous les jeux Remedy, mais je peux pas m'empêcher d'être hyper intéressé par tous les jeux. Ça fait partie, moi, de mes studios préférés, même Remedy. Donc voilà pour Alan Wake 2. On va faire baisser la tension avec un petit top 3 de rigueur. Alors, Halloween est passé, mais c'est un top 3 un petit peu Halloween, parce que c'est un top 3 des costumes. Qu'est-ce que ça veut dire, top 3 des costumes?
Alors, c'est top 3 des costumes portés par des personnages de jeux vidéo, mais dans le cadre de la diégèse de l'œuvre.
Et finalement, Alan Wake 2, on y est dans la diégèse, tout ça, la réalité.
C'est-à-dire que c'est pas juste genre les costumes de Spider-Man que vous changez dans le menu et qui n'ont aucune incidence, ou les costumes de Street Fighter 6 que vous allez payer. C'est vraiment quand le héros, consciemment, dans le jeu, se déguise, pour une raison ou pour une autre. Enfin, le héros ou un personnage dérivé de l'univers.
Ok, on va pas faire les mentions, direct le top 3, parce qu'on sait jamais si on se crame des cartouches.
Ouais.
Ton top 3, qu'est-ce que c'est ?
Mon top 3, c'est Mimiki, c'est un Pokémon.
De quoi ?
Alors, c'est un Pokémon qui est justement connu, parce qu'en fait, il fout un drap sur la tête
okay.
pour se déguiser en Pikachu.
Mais
donc,
non.
il a dessiné sur le drap pour faire une ganache, en fait, et en fait, il a pas du tout la gueule à Pikachu, mais il se déguise en Pikachu.
Wow, alors c'est beau, c'est beau et c'est précis.
C'est pointu. C'est vrai que il est pas toujours forcément très très connu, mais n'hésitez pas à regarder sur internet.
Mimiki.
Oui, je okay. te le montre vite
ouais,
fait.
Franchement,
parce que c'est un happening, tout se passe en direct.
Mais ah ok, d'accord.
Donc
mais...
ça c'est un drap et il a mis la tête de, il se fait la tête de Pikachu.
Et est-ce qu'on connaît, je vais pas te cramer, mais est-ce qu'on connaît son vrai, sa vraie.
Je crois.
Ah stylé. Donc cherchez sur Google. on regardera après. Mon top 3, ben moi, tu le connais, je pense. Non, ce n'est pas Cloud dans FF7 qui se déguise.
Oui, c'est le moment. C'est... Tu le mentionnes pas.
Non. Mais c'est Metal Gear Solid 2.
Ah, lequel, le camp?
Pliskin.
Pliskin. Allez.
Oui, à un moment, Solid Snake se déguise, enfin se fait passer pour Hiroko Pliskin. Et donc voilà, donc on savait pas tout à l'heure si ce top devait concerner des persos jouables ou pas, je ne crois pas, mais en tout cas Snake, on le joue dans le tanker et en fait il est Snake et finalement c'est après que plus tard
qui, ce qui est vraiment, c'est que pour se déguiser, lui il enlève des vêtements, donc il enlève son bandana et on fait oh putain c'est qui,
et personne ne le reconnaît, c'est un Clark Kent de l'infiltration. Allez, ton top 2 c'est quoi?
Mon top 2 c'est Aveline, le perso de Aveline dans Assassin's Creed Libération.
Okay.
Et là c'était clairement la mécanique de gameplay ouais. où elle pouvait se changer, alors c'était en courtisane, en esclave ou en lady un peu de la haute. Et en fonction de ton déguisement, tu pouvais accéder à des endroits différents, accéder à des mécaniques de gameplay différentes, et ça te permettait justement d'infiltrer la sphère un peu des Templiers pour résoudre tes péripéties, quoi.
Ouais. Alors c'est marrant parce que mon top 2 aussi concerne du gameplay, c'est FF10-2 avec ouais. les Yuripa, hein, le groupe de Yuna, de chanteuses et de guerrières, qui, voilà, en fait, se changent pendant les combats, et chaque tenue correspond en fait à une classe, à un job, et tout le gameplay va en fait de pair avec les fringues que tu vas mettre. Donc un top 2 un petit peu raccord au niveau gameplay.
Les vétisphères, non, c'était ça.
Les vétisphères, carrément.
C'est beau. Un jeu adoré, évidemment.
Alors, franchement, moi, je suis pas un grand fan de FF10-2, mais s'il y a bien un truc qui est cool, c'est ce système de combat, et en l'occurrence, les vétisphères qui étaient vraiment très, très stylés. Ton top 1, quel est-il?
Retour chez Tonton Nintendo, j'ai envie de dire. Alors, Ocarina of Time, évidemment, le personnage de Shake.
Ouais.
Donc, c'était évidemment Zelda qui se costumait en ninja de la tribu des Shaykan. Alors déjà, je trouve qu'à l'époque, c'était un vrai twist. Enfin,
pour de vrai, je m'en rappelle, moi, j'étais sur le cul.
Ah, de ouf. Parce qu'on suivait la princesse quand on était petit, donc, et quand on devient adulte, on n'a plus de nouvelles d'elle. Et on a ce perso mystérieux qui nous accompagne et qui nous aide. Et là, bam, patapouf, on apprend que c'est la princesse Zelda. Et ce qui, en plus, la rendait actif dans l'intrigue et tout, et badass, donc c'était carrément cool, quoi.
Carrément. On n'avait pas Twitter à l'époque, on pouvait pas se faire spoiler. Et vraiment, je suis d'accord avec toi, moi, c'est une vraie révélation de l'époque, un bon souvenir. Mon top 1 ne sera pas une révélation, un jeu que tu portes moyennement dans ton cœur, et moi que j'adore, et que je sais que Ken l'adore aussi parce que c'est un jeu Capcom, et Ken aime beaucoup les jeux Capcom, c'est Dead Rising, premier du nom, dans lequel, en fait, on pouvait se rendre dans un centre commercial, le jeu se passe dans un centre commercial, mais tu pouvais aller dans un Toys R Us, dans un magasin de jouets, et là, tu pouvais enfiler un costume de Megaman, et avec son bras armé, jeter des balles de tennis, et donc, c'était très rigolo.
Ouais, c'est vrai que c'est un jeu qui jouait vraiment sur le côté un peu con, enfin, un peu burlesque, délire, ouais. quoi.
Je crois que dans les épisodes suivants, c'est allé encore plus loin, mais j'ai vraiment en mémoire, voilà, ce héros, Frank West, si j'ai pas de bêtises, ouais. qui est vraiment avait une tête de con, avec son Megaman, et ses balles de tennis. J'ai un très bon, j'adore ce jeu, j'en ai un très bon souvenir. J'ai un peu peur de m'y remettre. connaître, mais j'aimerais bien le refaire, pourquoi pas, à terme. T'avais des mentions?
Ou, non.
Pas de mention. J'ai pensé à FF4, mais il se déguise pas, Cécile. Il change de classe.
Ouais, c'est pas un déguisement. Enfin, mais ouais, c'est vrai. Donnez-nous des vos pistes. Hein. Je pense qu'il y en a plein.
Qu'on a sûrement oublié.
Pensé.
Il y avait pas un jeu Double Fine, Costume Quest, c'était un peu triché quand même de dire.
Ouais, en plus c'était en délire Halloween ou tu te déguisais.
Donc c'était un peu triché. Voilà. Comme le dit Nico, n'hésitez pas à nous donner vos idées de top 3 et vos costumes jeux dans lesquels le personnage principal ou pas se change au cours de l'aventure. Attention dans la diégèse. Nico, c'est à toi de parler d'un autre studio qui a une vraie ligne éditoriale et qui pousse son sillon toujours plus loin, c'est Dontnod avec le jeu Jusant.
Jusant, tout à fait. Alors déjà, Jusant, qu'est-ce que c'est? Petit point définition. Bah, le Jusant, c'est un mot français qui est un petit peu désuet d'ailleurs, qu'on n'emploie plus beaucoup. Et en fait, il est issu du jargon maritime un petit peu. Oui. Ça indique l'état où la marée est descendante, donc où l'eau est en train de se retirer. Et si l'emploi du terme paraît un petit peu étrange de prime abord, rassurez-vous, hein, dès qu'on lance l'aventure, on comprend de quoi il est question. Mais Jusant, le jeu, lui, c'est quoi, par contre? Ben, en fait, c'est un titre où on incarne un personnage mystérieux et muet, et on va devoir grimper tout au sommet d'une tour. Alors, on parle d'une tour, mais c'est quelque chose de naturel. C'est pas un édifice construit par l'homme, c'est une espèce de montagne.
Ouais, c'est une montagne.
Et pourquoi? Ben, à vous de le découvrir, hein. Et c'est rigolo, parce qu'on a parlé il y a pas longtemps d'un autre jeu français qui demandait à un personnage mystérieux et muet de gravir une tour. C'était Chants of Sinar, un jeu excellent, on le rappelle. Sauf que là, dans Jusant, on va l'escalader, mais de manière littérale. Car oui, tout le gameplay du jeu, ben, au-delà de l'observation de l'environnement et des décors, repose sur une mécanique d'escalade. Donc en gros, on va avoir une gâchette pour la main droite, une gâchette pour la main gauche. Et donc, il va falloir voilà un petit peu monter, gagner la hauteur et escalader cette tour. Alors, on n'est pas face à une simu pointue d'escalade. Hein. D'ailleurs, bon, j'y connais pas grand-chose en escalade, donc j'aurais du mal à le dire. Mais c'est quand même quelque chose qui est un peu plus élaboré que dans Breath of the Wild. Ouais. C'est pas juste un bouton et tu grimpes automatiquement. Donc là, c'est que tu dois bien choisir tes prises, hein, que tu vois pour savoir t'orienter dans la bonne direction. Il faut aussi que tu observes un peu les voies d'escalade en amont pour vérifier que tu t'aventures pas dans un cul-de-sac. Mm-hmm. Souvent, bah, tu devras aussi planter l'un de tes pitons en ta possession pour t'assurer en cas de chute. Oui. Donc, t'as vraiment quand même la mécanique qui est un petit peu poussée.
Faut se reposer le bras.
Faut se reposer parce que tu as même une jauge d'endurance qui baisse au fur et à mesure. Et voilà, tu vas te reposer pour la faire remonter. Mais en cours de l'escalade, t'auras toujours la hauteur maximum de cette jauge qui diminuera. Donc, faut quand même pas non plus trop tarder. Alors, dit comme ça, ça peut sonner comme un peu chiant et rébarbatif. Mais en pratique, je trouve que ça fonctionne vraiment bien. Et dès que t'as pris le truc, ça demande quelques minutes un petit peu. Dès que t'as pris le truc, je trouve que ça devient un vrai plaisir de grimper. Mmh. Et j'ai très vite pris mes marques. Et à la fin, je me surprenais à faire appui long, appui court, hop hop, vite.
Assassin's Creed.
Me déplacer super rapidement. Et c'était vraiment, je trouve, très plaisant.
Ouais, ça fonctionne vraiment de ouf. Moi, ça m'a fait penser à Under the Waves, un jeu qu'on a traité il y a pas longtemps. Un jeu dans lequel on est sous l'eau tout le temps et les phases de sous-marines sont souvent pénibles. Et là, dans Under the Waves, c'était super agréable. Les phases d'escalade dans les jeux, même Uncharted, c'est rarement passionnant. Et là, pour le coup, ils ont rendu ça agréable, ludique et cool, ce qui est habituellement dans le jeu vidéo pas trop le cas. Et vraiment, j'ai trouvé ça mortel.
Il y avait un jeu Ubisoft, je sais pas si tu te rappelles, Gros Homme, où on devait escalader aussi, et c'était là aussi un peu pointu, c'était plutôt rigolo.
Moi, j'avais adoré Gros.
Alors, pour une anecdote, hein, j'ai joué une version PS5 du jeu, et prime abord, j'ai trouvé un petit peu dommage que ce soit pas en prise en compte la résistance des gâchettes pour l'escalade. On aurait pu s'y attendre, ça paraissait logique. Pour le coup, après avoir fini le jeu, je pense que ça aurait été une très mauvaise idée, et ça aurait rendu le truc pénible à jouer, parce que ça aurait vraiment fatigué, je pense.
Ça résiste pas du tout? Ah ouais, c'est marrant, mais tu vois, dans ma tête, moi, ça résistait. Enfin, genre, alors, il n'y avait pas un rapport de difficulté, mais chaque fois, ah ouais, non, j'ai rêvé. Hein.
Et c'est vrai que dans Death Stranding, on s'était plaint aussi un peu qu'ils n'avaient pas exploité à fond ce truc-là, parce que je pense que c'est trop contraignant à jouer, quoi.
Il y a un vrai rapport, moi, je trouvais à Death Stranding, un rapport à l'effort. C'est vrai que dans Death Stranding, t'avais une gestion de l'équilibre avec les gâchettes. Là, t'as une gestion aussi de l'équilibre, finalement, quand tu montes avec les gâchettes. Est-ce que dans le jeu vidéo, on n'est pas en train de voir quelque chose sur le rapport à l'effort avec ces gâchettes et justement avec ces gâchettes adaptatives? Moi, je trouve que ça fonctionne pas mal.
Ouais, alors je suis pas complètement d'accord, mais j'y reviendrai plus tard.
Ah, d'accord.
Là-dessus. Donc, on l'a dit, Jusant, c'est un jeu de Dontnod. Hein. Donc, Dontnod, c'est un studio français qui a été fondé en 2008. Et rien que cette estampille, ça suffit à nous rendre curieux parce que toi aussi, hein, je crois qu'on apprécie particulièrement le travail du studio.
De ouf.
Et il y a un vrai esprit Dontnod, hein, qui pourrait, je trouve, se résumer autour de deux caractéristiques majeures. La première, c'est la grande versatilité du studio, qui va se faire une force d'adapter en fait des genres de jeux préexistants pour les plier à sa sauce, tant dans le fond que dans la forme.
Oui.
On a par exemple Remember Me, leur premier jeu. je sais pas si tu seras d'accord, mais on est quand même sur les traces d'un Uncharted-like.
Oui.
On va alterner des séquences d'escalade, de combat. Mais Rimmer Army va dévoiler sa richesse avec son univers vraiment inédit, original. Ses combats intéressants à base de combos qu'il faut réciter un petit peu. Et sa mécanique aussi où on va revisiter les souvenirs de personnages. Mmh. J'en dis pas plus, mais Rimmer Army, c'est une bonne adresse, allez-y. Mmh. On a également la vague des Life is Strange 1 et 2 ou de Tell Me Why qui, lui, eux exploitent vraiment une formule à la Telltale, en fait. Donc, de très très narrative avec des choix qui vont avoir des conséquences. Mais dans Life is Strange, ça vient être enrichi de persos très bien écrits, très bien incarnés. Et avec toujours un petit twist de gameplay qui va venir rendre le truc un peu cool, quoi. On a parlé d'Alan Wake tout à l'heure, on a aussi Twin Mirror, le jeu d'enquête dans notre qui se rapproche un petit peu, je trouve, d'Alan Wake sur certains aspects. Ou plus récemment, le jeu Harmony the Fall of Reverie, qui est sorti il y a quelques semaines, qui lui va revisiter le genre du visual novel. Alors lui, je l'ai pas encore fait, mais il me tarde de m'y essayer.
Oui.
Finalement, il y a seul Vampire, qui m'a peut-être pas forcément très très plu, qui, je trouve, sonnait peut-être plus comme un amalgame des jeux du moment et auquel il manquait justement cette petite touche dans le node. Vampire, toi, je crois que tu l'avais un peu plus apprécié.
Moi, j'ai vraiment apprécié toute l'ambiance, dont la musique.
Ça a suffi à te faire.
Ouais, mais après, c'est vrai que c'était un petit peu poussif sur certaines autres choses.
Donc, Dotnode, voilà, c'est un studio qui s'attaque à différents genres et qui navigue entre identité triple A comme Rimmer Army, petit feeling jeu indé avec Life is Strange, voire même double A comme dans Vampire.
Ouais.
Donc, on voit cette versatilité à tous les niveaux. Enfin, la deuxième caractéristique des titres Dotnode, c'est qu'ils ont quelque chose à raconter à chaque fois. Alors, j'emploierai pas l'expression jeu à message parce que je trouve qu'elle est un petit peu réductrice. En soi, que un jeu, là, le jeu sans le message, c'est un vrai jeu quand même.
Oui.
Qui se suffit à lui-même, qui est cool par son gameplay et qui est plaisant. Je parlerai plus de jeu conscient, quelque part. Un jeu qui va véhiculer des valeurs et notamment les valeurs de Dotnode, qui est un éditeur assez engagé.
Oui. Complet.
Et donc là-dessus, les jeux de Dotnode vont tourner autour de thématiques assez fortes et récurrentes. Comme le temps, comme l'amour, comme l'écologie. Mmh. Et donc là-dessus, on voit qu'on a quand même affaire à un studio qui est précieux, et pas précieux dans le sens où ils font que des jeux, c'est des tueries, etc. Mais précieux parce que c'est un studio qui a une ligne éditoriale forte, une personnalité forte, et ça, c'est rare. Et c'est vrai que t'en parlais avec Remedy, c'est aussi le cas. Et même si la philosophie, je trouve, avec Dotnode n'a rien à voir, mais on peut comparer ça à Quantic Dream. Hein.
Ouais,
je pense qu'on on le cite tout le temps.
T'as pas cité Housemarque pour les studios, quand même.
C'est vrai, mais je suis moins connaisseur là-dessus. Et Quantic, comme Dotnode, creuse leur sillon contre vents et marées avec des jeux immédiatement identifiables.
Ouais.
Dès que tu vois un jeu Quantic, tu le reconnais. Et d'ailleurs, tu peux jouer au jeu des comparaisons avec entre Quantic et Dotnode. Hein. C'est deux studios qui font des jeux fortement orientés sur la narration. Les deux ont récemment ouvert une antenne à Montréal hein, pour un studio local là-bas. Les deux se sont lancés dans l'édition de projets d'autres studios, donc de ramener sous leur coupe un peu des studios qui pourraient avoir une même approche. Et tous les deux ont Tencent en tant qu'actionnaire.
Ah,
c'est, voilà, c'est plus pour la blague, c'est rigolo, voir un petit peu les...
Et dans la branche édition, on en a parlé, Under the Waves, encore un studio français avec un message écologique.
Et voilà, c'est beau. Retour à Jusant, donc, est-ce qu'il coche ces deux cases Dotnode? En fait, oui, mais vous allez voir, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, niveau influence, on pourra clairement dire que Jusant, c'est un enfant des titres de Fumito Ueda et de Journey, par exemple, de Genova Chen. Et je trouve qu'il n'y a aucun mal à ça, évidemment, c'est une très belle influence. Et je trouve d'ailleurs que Jusant, c'est même un bon élève, qui fait plutôt bien les choses là-dessus. De Journey, je trouve, il va reprendre le flow, ce rythme, je trouve qu'il est bien géré, et qui fait que quand tu commences ta partie, t'as pas forcément envie de t'arrêter.
Ouais.
Je crois que t'as fait le jeu d'une traite.
Non, quasi.
Et moi, pareil aussi, donc c'est vraiment, t'as ce côté où t'as pas envie de lâcher le truc. Et là, l'histoire va se raconter à travers les sentiments en fait de ton perso principal. Et les péripéties, finalement, elles sont plutôt marquées par les changements d'environnement, par les changements d'ambiance de ces biomes. Est-ce que t'auras un biome plutôt tranquille, plutôt paisible, ou alors plutôt hostile, avec des couleurs qui vont venir... jouer sur cette palette de sentiments, et ça, je trouve ça vraiment intéressant. De Ueda, on en retrouve toute la sobriété, donc ce personnage muet, alors je dis muet, il s'exprime par des bruits et tout, mais il ne parle jamais. Tu vois aussi des enjeux un petit peu évanescents, avec un univers mystérieux que tu vas devoir reconstruire mentalement grâce à la narration environnementale, grâce à l'observation des décors, où tu vas devoir te reconstituer un peu ce qui se passe. Alors on va pas croiser âme qui vive dans Jusant, et t'en apprendras plus sur le contexte global en observant des fresques peintes sur le mur. Là aussi, Journey faisait un petit peu ça. Et on trouve bien quelques notes à lire et des textes à lire dans le décor qui viennent nous en apprendre là beaucoup plus sur les personnes qui t'ont précédé, sur ce qui s'est passé avant. Alors je les trouve très bien écrits, mais perso je trouve qu'elles sont presque de trop. C'est vrai que ça vient apporter de l'info, mais il n'y a pas forcément besoin. L'observation pouvait suffire. Et à mon sens, ce qui gêne un peu, c'est que dans ta progression, ben, la lecture de ces notes qui sont quand même un petit peu longues, ça vient un petit peu entraver le rythme. Mmh. Je crois qu'on était un petit peu d'accord là-dessus.
Ouais, je suis d'accord avec toi, elles sont très très bien rédigées. Elles vont même refléter le tempérament de chaque strate, on va dire, de cette grande montagne qui rappelle aussi un autre jeu que tu as cité tout à l'heure, c'est Chant of Sinnar.
Avec des accents, des façons de s'exprimer, des vocabulaires spécifiques.
Et ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Je trouve qu'elles sont peut-être de trop. Alors, c'est ultra dur hein, comme jugement parce que elles donnent du contexte, du lore, elles sont bien écrites. Mais en fait, c'est qu'il y a des idées dans le jeu, donc ces fameuses... Enfin, c'est conques, on n'en a pas encore parlé, mais c'est des coquillages que tu peux retrouver, que le personnage met à son oreille, et en fait, va lui donner une espèce de réminiscence qui va un petit peu contextualiser l'endroit où il trouve ce coquillage. Donc ça va être des sons, ça va être une ambiance... Et ça, c'est une vraie idée de collectible de jeux vidéo qui est propre aux jeux vidéo.
Qui est pas intrusif.
Ouais. Alors que la note, on est quand même sur de la lecture, sur des mots, sur quelque chose qui vient, entre guillemets, d'un autre média, qui va nous stopper, qui va...
T'aimes pas ça, toi?
Non, j'aime pas ça. Même si là, c'est vraiment, je les ai toutes lues, j'ai adoré.
Oui.
Et, je pense que s'il n'y avait pas eu cette idée de coquillage, la conque, là, peut-être que j'aurais pas bloqué sur les... Parce que ça prouve que, et c'est ultra dur, hein, vraiment, chapeau à eux, mais que ça aurait pu, il y aurait impossible. Ouais. Donc en gros, dans les lettres, on a un petit peu deux narrations. On a le convoi qui nous précède, qui n'a pas réussi, et un petit peu les peuplades qui ont vécu. Ça aurait été compliqué de montrer qu'il y a eu un convoi sans lire... ou de constater qu'il y a des gens qui ont essayé de faire ce qu'on a fait qui n'y ont pas réussi, et de constater en fait qu'il y a des gens qui ont vécu dans chacune de ces strates. Franchement, c'est ultra dur, mais ils y ont presque arrivé.
Oui. Donc je l'ai dit, hein, deux influences, Fumito Ueda et Jinova Chen, mais le jeu a quand même son originalité propre. Alors l'escalade, évidemment, on en a parlé, mais aussi son univers singulier, c'est-à-dire que moi, c'est un univers que j'ai jamais vu. T'as une direction artistique qui ne l'orne ni vers l'école japonaise, ni l'école américaine. On a vraiment ce côté,
c'est génial.
L'école, voilà, franco-française, peut-être. Alors, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Et ce contexte aussi, alors qu'il est pas complètement post-apocalyptique, alors j'en dis pas trop sur le contexte, mais t'as l'impression que tu te places juste après, en fait, l'événement qui a causé un peu, l'exode de cette population. Et tu ressens encore les traces de la vie là-bas. Tu vois, c'est un peu à la BioShock où t'es juste après l'événement un petit peu majeur.
BioShock, très bon exemple. Enfin, le côté aquatique, moi, ce que j'ai le plus apprécié, j'espère que je vais pas le dire dans l'instant, mais c'est cette opposition de monter une montagne dans un contexte aquatique, voire sous-marin. C'est-à-dire que vraiment, l'ensemble de la flore que vous allez voir, c'est ce que tu peux voir dans un caillou quand tu vas là, sur un caillou que tu peux voir quand tu vas à la mer, des espèces de moules, des espèces d'algues, des trucs comme ça, parce que justement, l'eau était là précédemment. Donc t'as vraiment, cette opposition de air, eau, qui est, je trouve, moi j'ai jamais vu ça, et je trouve ça génial.
Et deuxième point, est-ce que Jusant raconte quelque chose? Eh bien oui, mais là aussi, je préfère pas trop en dire et vous laisser plutôt le plaisir de la découverte, parce que moi, j'ai trouvé vraiment là où ça allait, qui était plutôt intéressant et plutôt malin de la façon dont c'est raconté.
Oui.
Donc finalement, Jusant, c'est bien un jeu d'Ontnode, mais finalement, il ressemble à aucun autre des jeux de la société, et c'est ça qui est cool. Alors malgré quelques pétouilles que je trouve assez mineures, des fois, je trouve que le chemin de la progression est pas toujours très clair, ou parfois tu vois un petit peu ton perso un petit peu se bloquer dans les décors si tu t'amuses à un peu trop sauter partout, mais rien de grave. Jusant, je trouve, il va vraiment trouver sa voie avec son gameplay d'escalade qui est très très sympa. Et je trouve que l'escalade, c'est là où je suis pas d'accord forcément avec ce que tu disais, c'était vraiment plus un moyen de raconter une histoire plutôt qu'une fin en soi.
Okay.
Et qu'ici, je trouve que ça n'était pas là pour vanter les vertus de l'escalade, à savoir le dépassement de soi ou la performance physique. Mmh. C'était plus un véhicule à la narration, tu vois. Là où Death Stranding, je trouve la marche, c'est capital dans le gameplay. D'accord. Là, Jusant, ça aurait pu être une autre façon de raconter, enfin, ça aurait pu être une autre mécanique. Je pense que ça aurait été un petit peu la même chose, quoi. Mmh. En tout cas, Dontnode rajoute une nouvelle corde à son arc. Une corde qui est à la fois fidèle à leurs précédents travaux, mais aussi super novatrice. Alors certes, on rencontre pas d'ennemis dans le jeu et l'avancée se fait sans heurts, mais c'est justement pour mettre en avant ces montées de rythme, appuyées par une musique, je trouve, qui vraiment fonctionne super bien. Et le jeu, malgré les craintes qu'on peut avoir, parvient à se renouveler, je trouve, au fil des 4-5 heures pour en venir à bout. Donc voilà, Jusant, c'est vraiment cool. C'est disponible dans le Game Pass, hein, si vous voulez tester, si vous êtes abonné. Sinon, ça vous coûtera 25 boules.
Ouais. Je vois ce que tu veux dire, par rapport à l'escalade est un vecteur de la narration, du message qui veulent véhiculer. Après, t'as dit que Dontnod, les jeux Dontnod avaient un petit peu deux visages, tu vois. T'avais les versets un peu plus narration, les versets un peu plus action. Ce qui est rigolo, quand tu regardes Remember Me, ce que je trouve raté dans Remember Me, c'est le versant escalade. Comme si, tu vois, à l'époque, c'était un traversol. Moi, je trouvais complètement, à côté de la plaque, en même temps, était sorti un Tomb Raider, le reboot, où vraiment c'était beaucoup plus dynamique, là c'était très raide. Là, ce versant escalade, c'est comme s'il avait extrait en disant, là on va faire quelque chose qui est quand même articulé autour de l'escalade. Donc je vois ce que tu veux dire, quand tu dis que c'est un simple vecteur, mais c'est un peu bossé quand même.
Ah oui, oui, ça reste quand même le cœur du gameplay. Ouais. Et ça marche très très bien et ça crée une originalité au jeu aussi.
Ouais,
et mais c'est vrai que d'après ce que j'ai lu des interviews, c'est que le volet escalade n'était pas là au cœur du projet à la base. Ça arrivait un petit peu après.
D'accord. Bon, ok, je comprends. Enfin, je comprends et je trouve ça d'autant mieux fait parce que même si ça arrivait dans une seconde partie de développement, je trouve que c'est quand même vachement bien intégré. Mmh. Et quand tu parlais des inspirations de Ueda, moi je trouve qu'ils ont vraiment capté quelque chose des jeux de Ueda, c'est là, en rapport à l'escalade, c'est ce rapport physique, c'est-à-dire que vraiment, dans les jeux d'Ueda, t'as vraiment une physique, donc là, t'as personne qui te tient par la main, mais quand t'es agrippé, comme dans Shadow of the Colossus, t'as vraiment un ressenti du poids du personnage, et un autre truc, c'est le vent. C'est-à-dire que, comme, t'es en montagne, hein, t'escalades, le vent, c'est fondamental, ne serait-ce que pour l'acte d'escalader, mais là, le vent, il est surpuissant à l'oreille, tu l'entends, il a un rapport sur le gameplay, et ça m'a fait penser au bon moment d'Ueda. Parce que Ueda aussi des jeux très silencieux, sans trop de sound design ou de musique, mais quand il y a des moments, sans spoiler, où t'as des chocs de venteux, bien, tu le sentais fort. Dans Jusant, je trouve que c'était bien, l'inspiration était là aussi.
Ouais, je suis d'accord, et c'est vrai que le volet un peu presque tactile des jeux Ueda, j'y pensais pas forcément, mais c'est vrai que t'es tout le temps en train d'escalader, en train de t'agripper assis à ça, à Yorda aussi, auquel tu tiens la main tout le temps, t'as toujours ce côté, ce rapport à l'environnement direct, quoi, en fait.
Et dans Shadows of the Colossus, t'as ce rapport aussi à l'endurance, qui est dans Jusant en particulier, t'as cette accroche qu'il faut vraiment se tenir, et ça, dans Jusant, c'est fondamental aussi, c'est que tu dois faire face à ta fatigue, à des éléments extérieurs. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça super. Le rapport écologique, moi c'est un point que je trouvais ultra bien fait parce que très subtil. Et ce rapport aussi qu'il y a à la flore. On a parlé tout à l'heure de la flore avec ce côté très sous-marin, mais la faune, je trouve que c'est intéressant parce que finalement, tu dis qu'on voit pas qui vivent d'humains, mais t'as vraiment une faune qui dit, en fait, le jeu te dit que si, en fait, les animaux, eux, ils ont réussi à survivre et que ces animaux, en fait, ils se sont transformés, ils sont devenus élémentaires. Donc, t'as des animaux qui sont minéraux et t'as des animaux qui sont aquatiques. Et finalement, nous, on est des humains et si on réagit pas, nous, on va y passer. Mais les animaux, ils arriveront à survivre.
L'adaptation, toujours,
Et bon, là, c'est sûrement très, très fortuit, mais ce côté animal-minéral, ça fait vachement penser au furtif de Damasio. Damasio qui a été dans les débuts de Dontnod, qui a écrit certains...
Vous en parliez avec Damien quand on buvait le café, où vous êtes tous les deux familiers de l'œuvre d'Damasio. Moi, pas du tout, mais apparemment, ouais, il y a des clins d'œil, il y a pas mal de...
C'est peut-être involontaire, mais dans les furtifs, justement, les furtifs sont des animaux qui se sont adaptés, qui sont là, mais qu'on ne voit pas, qui sont dans nos angles morts, et qui sont, en fait, au-delà de la chair, au-delà de... Ils sont élémentaires, en fait. Mmh. C'est des animaux qui sont aussi minéraux, tout ça. Et là, on en croise, vous avez vu déjà dans les trailers, des espèces d'insectes qui sont en roche. Il y en a d'autres, des plus gros, et puis même le petit personnage qui t'accompagne, lui c'est un personnage qui est aquatique,
à queue,
il est à queue, et c'est une race, et je crois que c'est les ballasts, et les ballasts c'est dans les bateaux, c'est les réserves d'eau, et donc ce personnage va permettre de donner de l'eau, en fait, et de mettre de l'eau là où il y en a plus. Ouais. Et je trouve le jeu vraiment subtil,
super malin, super bien pensé,
super poétique, et moi j'ai été touché à la fin, j'ai trouvé ça super beau, super bien fait, j'étais satisfait par le côté gameplay et ravi par le message qu'il véhicule.
Une belle expérience qu'on vous conseille.
Donc, encore une fois, un excellent jeu de 2023, il y en a marre.
Quelle année 2023 et quelle année pour les jeux français aussi.
Mais de ouf, vraiment, ça sera sûrement une des grandes tendances de l'année 2023. Au-delà du fait qu'il y a que des bons jeux, il y a aussi de très très bons jeux français. Dites-nous si vous avez joué à Jusant, qui est sur le Game Pass et qui est ailleurs, n'hésitez pas à vous y essayer. Avant de vous donner le programme de la semaine prochaine, on vous invite à mettre une petite note, un petit pouce, un petit com, et on vous remercie chaleureusement de tous ceux qui mettent des pouces, des com et des likes.
Des petits messages aussi, on voit passer des petits messages d'encouragement, ça nous fait super plaisir.
Sur le Discord aussi, il y a quand même des tops, on a un Discord, l'invitation est sur nos réseaux. N'hésitez pas à nous suivre partout. Non, faut pas nous suivre dans la rue, ça se fait pas. Mais voilà, les podcasts, pour les soutenir, c'est la note. Et pour soutenir Sœurd, si vous aimez ce qu'on fait, vous pouvez acheter nos bouquins Sœurd Édition sur notre site directement. Acheter en librairie, on soutient les libraires, mais comme pour Epic, quand vous achetez sur le site, vous nous soutenez plus.
Ouais, donc en physique ou en démat, parce qu'on propose aussi tout notre catalogue en e-book. Et donc Sœurd, maison d'édition, plus de 150 livres sortis, que ce soit du jeu vidéo ou de la pop culture. Derrière nous, la petite sélection du jour, on a du Silent Hill pour Halloween, j'imagine.
Ouais, c'est ça.
Du Death Stranding pour la marche Jusant.
Exactement.
Et et du Fumito Ueda pour l'ambiance et l'influence. C'est beau.
Le combo. C'est bien. On n'a pas de livre Alan Wake. Pourtant, je milite depuis des années. Mais est-ce que là, Alan Wake 2 va pas changer la donne?
Est-ce qu'il faudrait pas un livre Remedy plutôt? L'œuvre de Remedy?
Tous les jours. Moi, les deux, moi, je pense.
L'œuvre de Sam Lake. Yes.
Tous les jours, quand tu veux une bio de Sam Lake. Ou de Sammy Yarvi. Hein, l'homme au devis. On en vendra moins. Nico, il se passe quoi dans Red Alert la semaine prochaine?
Alors écoute, si je ne m'abuse, on va parler Pipiou Spider-Man 2.
C'est possible. On sait pas si ça sera une émission entièrement dédiée à Spider-Man 2 ou s'il y aura une petite seconde chronique qui va s'ajoindre là-dessus. En tout cas, voilà, si vous aimez le dernier jeu Sony de Noël et Spider-Man, il faudra être au rendez-vous. On vous remercie. On remercie toute l'équipe. Hein, Ken, Damien et Ludo, on leur fait la bise. Et on vous fait même la bise à vous. Allez, à la semaine prochaine.
Bye bye.